France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Max Emmanuel Tsentsic. Je suis né en 1976 à Zagreb et je suis contre-ténor.
Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses, évidemment. Votre carrière est extrêmement riche. On l'a évoqué à la fois la mise en scène, le chant, la direction de votre maison de production. Et puis, Bayreuth. Bayreuth, pas chez les Wagneriens, mais Bayreuth...
chez les baroqueux.
Chez les baroqueux. Bayreuth dans un joyau absolu, un endroit absolument merveilleux. C'est un rêve devenu un peu réalité, ça?
Oui, c'est le couronnement de ma carrière. Après 15 ans de l'opéra seria, d'avoir mon propre festival à Bayreuth, c'est comme si on m'a créé le duc de je ne sais pas quoi. C'est vraiment une chose extraordinaire. Surtout parce que le festival, ça me appartient. Donc j'ai l'honneur, comme la famille de Wagner, d'avoir mon propre festival qui est pratiquement là pour l'éternité. C'est vraiment extraordinaire. Et surtout dans un théâtre emblématique. On a à Bayreuth deux théâtres emblématiques. Un de Gottfried von Semper qui était construit pour Wagner lui-même. Et cet opéra de Marggraf qui était construit par Bibienne en 1748, qui est aussi une merveille. C'est un World UNESCO Monument. Et c'est presque un miracle que dans une si petite ville, il y a deux théâtres d'une si grande importance pour le monde de l'opéra. Maintenant, c'est ma maison dans laquelle je peux chaque année présenter des nouvelles découvertes de l'opéra seria qui normalement vont jamais être montrées dans aucun part du monde mais que à Bayreuth. Et imaginez-vous, au début, Cosima Wagner, elle a mis une interdiction de jouer les opéras de Wagner ailleurs que à Bayreuth au début. Et c'est avec tant qu'ils ont commencé à de donner des autorisations de présenter les opéras de Wagner à New York, à Paris, à Londres et tout ça. Donc maintenant, on est un petit peu dans une même situation, sauf qu'il
vous
n'a pas...
Vous interdisez à tout le monde.
Non, je n'interdise pas. Non, au contraire, j'aimerais bien qu'ils le fassent. Je fais plutôt la pub pour l'opéra seria à Bayreuth, mais on est surtout très très seul là avec cet répertoire. Sauf ce qui est très bien, c'est qu'il y a des grands chanteurs qui sont invités chez nous de venir à chanter, qui ont aussi un vaste répertoire dans ce domaine-là, ce qui est très très bien, et oui, je suis très très content.
C'est l'occasion de donner jour à des œuvres qu'on n'entend jamais, mais pour vous, Max-Emmanuel Tsentsic, d'être à la fois à la mise en scène, mais aussi de temps en temps sur scène, vous êtes à la fois dans la production et à la mise en scène de la production. Et comme quelque chose peut-être d'assez fou d'embrasser comme ça les œuvres sous différents angles.
Oui, c'est un côté fou, mais c'est un côté qui crée une énergie énorme qui capte le public, et on était plein l'année dernière. En 6 semaines, on a vendu tous les billets et on continue d'avoir un énorme succès avec cette festival. J'aimerais dans le futur que cette festival s'élargisse et qu'on a un mois au minimum et qu'on peut aussi présenter plusieurs opéra mise en scène, mais pas que par moi, parce que ça serait terrible d'avoir un festival dans lequel c'est le directeur artistique lui-même qui se produise tout le temps. C'est pas l'idée. C'est justement maintenant pour le début, mais j'espère qu'on va plus en plus attirer aussi des autres productions à Bayreuth et qu'il y aura aussi des autres metteurs en scène qui vont présenter leurs œuvres.
On a évoqué, ça et là, quelques chefs d'orchestre, mais finalement pas beaucoup. Il y en a pourtant avec lesquels vous collaborez de façon très régulière. Pareil pour des chanteurs. Votre cercle premier serait composé de qui?
Alors, je travaille beaucoup avec George Petrou. Je travaille beaucoup avec Franco Fagioli et Julia Lejneva depuis des années et des années. Mais il y a aussi de nouvelles noms comme Martina Pastuszka et Orchestra Historyczna de la Pologne. J'ai travaillé aussi beaucoup avec Concerto Köln. L'année prochaine, ça sera Academia Byzantina qui viendra. Donc, moi, je suis très ouvert à tous les noms et tous les orchestres. Je suis pas du tout quelqu'un qui est fermé ou, mais je peux dire aussi que parfois, j'envoie des noms à mon bureau. Je dis oui, il y a cet rôle et cet rôle et j'aimerais bien que ça soit cet ou cette chanteur ou chanteuse. Vous pourriez les demander s'ils sont libres. Et souvent, des gens ne sont pas libres ou ils ont un peu en choc que je le demande parce qu'ils se disent « Ah tiens, pourquoi il me demande que je dois chanter avec lui dans sa production ?» Comme si on était dans la lune, je ne sais pas quoi. Mais je constate parfois qu'il y a une tendance de l'exclusivité entre les chanteurs et des chefs d'orchestre de dire « Ah non, ça c'est ma équipe, ça sont mes gens avec qui je travaille que et pas avec les autres. » Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est important de se mélanger, de s'inspirer des autres gens, de changer un peu l'équipe parfois et d'avoir des nouvelles impressions. Oui.
Dans les opéras Arte Acerce ou Sant' Alessio, on aurait pu se dire que ça allait générer énormément de concurrence, parce que comme ça, 8-10 contre-ténors les uns face aux autres, et finalement on a l'impression que c'est plutôt le contraire. Ça a plutôt fédéré gens qui se sont mis ensuite à développer d'autres choses. Je pense par exemple à Philippe Jarouski, avec qui vous avez fait beaucoup de choses.
Oui, alors, je ne vois pas des contre-ténors des autres chanteurs ou l'artiste comme concurrence, parce que mon Dieu, l'année, il n'y a que 365 jours, donc on ne peut pas faire tout. Et moi, je me trouve souvent dans la situation dans laquelle j'ai trop de travail que je ne peux pas faire. Et je suis content qu'il y a des autres qui le reprennent parce que c'est impossible. Il faut que j'ai aussi un peu de temps pour moi-même. Il faut que j'ai aussi mes vacances, ma vie privée. Je ne peux pas être toujours à la scène. Donc, la concurrence, ça n'a jamais pour moi existé dans ce sens-là. Au contraire, j'ai travaillé avec Franco Fagioli au début, en lui produisant son premier grand disque, Caffarelli. Il était dans mon agence pendant beaucoup des années. On a maintenant Bruno Dessa sur contrat. Lui, il va sortir un disque l'année prochaine chez Erato avec un répertoire que moi, originalement, j'avais l'idée de le faire. Mais après, je me suis dit non, en fait, c'est pas bien pour ma voix, ça va pas marcher. Donc, je suis trop content que c'est lui qui va faire parce que c'est vraiment un répertoire qui va être très passionnant et tout ça. Aujourd'hui, pour exemple, j'ai travaillé avec Erato, j'ai travaillé avec Deutsche Grammophon, j'ai travaillé avec Decca. Maintenant, j'ai commencé d'avoir mon propre label, mais je le fais parce que j'aime bien faire quelque chose de nouveau. Je vais pas aller arrière et commencer encore de faire des disques avec Warner ou Universal ou tout ça, parce que ça sert à rien. Et c'est bien que les jeunes, ils font maintenant Warner et Decca et tout ça. C'est bien pour eux. Mais moi, j'ai déjà une carrière, donc j'ai pas nécessairement besoin de ça plus. Et ce qui compte plus, c'est des projets et mon festival dans lequel je me lance. Et oui, je vois ça plutôt comme un enrichissement. Comme une nouvelle expérience, un nouveau voyage.
Dans vos rêves les plus fous, est-ce que tout est musique ou bien il y a d'autres choses? Vous qui avez des envies créatives qu'on sent à 360 degrés et une inspiration.
Ah, j'adore l'architecture, le design. Ça c'était toujours mon passion. Donc oui, je me passionne pour ça. Et,
La mode, j'avais lu aussi, vous
oui,
aviez
la
des
mode
envies
aussi,
de mode.
Oui, la mode aussi. J'ai aussi mes petites voyages de folie dans la mode.
Non, je me demandais si vous iriez jusqu'au costume.
Oui, en
faisant la mise en scène, est-ce que c'est quelque chose qui aussi vous intéresserait de pousser jusqu'à quelque chose véritablement peut-être de total en termes de langage?
Je suis encore un peu hésitant. Vraiment, pour dire la vérité, je suis hésitant parce que j'ai une formation plutôt dans cette métier de l'histoire d'art et l'histoire en général et tout ça, ça je peux remettre encore dans la musique et lier tous ensemble. C'est ça qui me donne une certaine sécurité et un bon instinct. Quand vous parlez de la couture ou de la mode, ça sont des choses très différentes. J'ai trop de respect pour ce métier-là. Il faut savoir le coût, il faut savoir les mesures, connaître le style. Et comment arriver à d'avoir même chaque petite ombre qui tombe sur le soie, comment ça peut finalement apparaître parfait? Ça, c'est un art. Ça, c'est une science en soi-même. Et ça, tu peux pas faire comme Kardashian. Voilà, elle a sa ligne de mode. Moi, je sais pas Kardashian. Donc, je peux pas le faire. Et faut rester sérieux quand même.
Votre enfance passée dans les coulisses a exercé un œil critique, a sans doute nourri aussi votre approche des œuvres, la manière de se dire comment on raconte des histoires. C'est une chose que vous regardez avec attention depuis très longtemps.
Oui, oui, bien sûr. Et là, l'expression dramatique aussi dans le théâtre, il y a certainement les moments qui vous touchent profondément, émotionnellement, et soit en cinéma ou soit à la scène. Et lier tout ça, c'est quelque chose particulièrement attractif pour moi.
France Musique, les grands entretiens de Max-Emmanuel Tchentchik.
Est-ce qu'il y aurait une œuvre que vous n'avez pas encore chantée et que vous aimeriez véritablement chanter ? Ça, il y en a comme ça, qui font partie de vos rêves ou justement que le festival va vous permettre de faire réalité ?
Oh, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire parce que je travaille dans un répertoire qui est si inhabituel. C'est impossible de dire en avant si c'est quelque chose qui passionne ou pas. Parce que le répertoire qu'on connaisse n'est pas le mien. Ce que vous entendez normalement à Garnier ou à Milan, à Londres, ce n'est pas mon répertoire. Donc, et c'est un répertoire qui est très très bien connu. Mais oui, je peux vous dire, ça serait peut-être un rêve de chanter une fois Jules César. Mais ce n'est pas un rêve pour lequel je suis prête à mourir.
Et votre rapport à votre voix, on n'en a pas parlé quand vous chantez. Enfin, quel rapport vous entretenez avec elle ? Est-ce que vous l'aimez d'abord ?
Oh, ben, ça, c'est une question très psychologique que vous posez. L'amour avec soi-même. Je pense que ça, c'est une question très profonde et complexe pour chaque personnage ou pour chacun. Parce que, oui, aujourd'hui, je suis allé courir au bord de la Seine et j'avais ce sentiment un peu étrange. Je me suis senti un peu hors de mon corps. Et là, je me suis dit, tiens Max, tu te sens pas bien aujourd'hui parce que tu t'acceptes pas. Et je me suis dit, c'est bien que tu as finalement réalisé ce sentiment ou que tu as pu ressentir que ce n'est pas un problème, mais que c'est qu'un sentiment qui passe. Et donc, cet sentiment de s'aimer ou de s'accepter, c'est un peu comme une vague qui vient et qui passe. Et avec le chant, c'est la même chose. Si vous vous sentez bien, vous chantez. Si vous vous chantez pas bien, vous chantez pas. Pour exemple, quand il y avait le couvre-feu l'année dernière, quand tout était fermé et le Covid commençait, j'ai pas chanté. J'ai pas pu chanter. J'ai même perdu ma voix. Un mois, j'ai pas pu parler. C'était incroyable. J'ai parlé comme Liza Minnelli à 70 ans. Après drogue, alcool, tout ça que vous voulez. C'était un truc incroyable. Et ça m'a pris des semaines et semaines de reprendre encore la parole. Parce que j'étais profondément triste, profondément déprimé. Et profondément, j'avais pas du tout envie d'utiliser la voix. Donc, oui, la relation avec la voix, je pense, c'est comme une relation d'amour. Hein. C'est un dialogue, c'est une acceptance. Il faut avoir patience. Il faut savoir se traiter bien, mais aussi il faut se dire « Ok, c'est bon ». Il faut maintenant laisser faire le corps, le voix, ne fais rien, laisse tomber, c'est bien. pour moi, chanter, bah, ça va continuer, je ne sais pas. Bah, Inch'Allah, voilà, on ne sait pas. Et d'un coup, le jour quand je vais constater que j'arrive pas, ou que ça m'énerve trop, ou que ça me fatigue trop, bah, je vais arrêter. Et je vais faire quelque chose de différent dans ma vie. Mais ce que je peux définitivement dire, je regarde jamais à l'arrière et je me dis jamais « Oh, j'aimerais encore être jeune ». Non, pas du tout. J'étais très malheureux quand j'avais 20 ans. J'étais même plus malheureux quand j'avais 15 ans. Et maintenant, je suis très heureux que j'ai 44 ans parce que c'est un âge qui me permet d'être tellement à l'aise avec beaucoup de choses qu'avant, j'étais pas à l'aise du tout. Et aussi, il y a maintenant un choix. J'ai la direction artistique, je suis metteur en scène, j'ai un des plus grandes agences artistiques en Autriche. Et chanter, c'est super, mais je ne dépends plus que à chanter. Et c'est ça qui me met à l'aise de dire, c'est bien parfois de savoir quand il faut dire au revoir.
Vous y êtes pas encore?
Non, non, pas du tout. J'espère pas, mais on ne sait jamais.
C'est avec le chœur final de Gismondo, Re di Polonia de Vinci, dernière production discographique de Parnassus Arts Productions, que se termine cette série des grands entretiens avec Max-Emmanuel Cencik. Équipe de réalisation Gilles Blanchard, Jason Taous, Philippe Mercher et Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.